Gélinet apparaît. Bonjour Patrice.
Bonjour Fabrice Drouel.
Apparition, donc.
Il y a 150 ans, c'était quelqu'un d'autre qui apparaissait. C'était le 11 février 1858, donc il y a 150 ans, jour pour jour, la première apparition de la Vierge.
J'ai vu quelque chose de très beau. Dans cette grotte à cochons, je sais pas ce que t'as pu voir de beau, il n'y a rien.
Là-haut, j'ai vu une dame très belle. Elle était habillée tout en blanc.
D'histoire. Il y a 150 ans, jour pour jour, à Lourdes, une adolescente de 14 ans, Bernadette Soubirou, partait de chez elle avec sa sœur pour chercher du bois mort sur le terrain communal de l'autre côté de la rivière du village. Au moment où elle se déchaussait pour traverser le Gave, devant la grotte de Massabielle, elle y a vu, dit-elle, une jeune fille habillée de blanc qui lui souriait avant de disparaître. C'était la première des 18 apparitions qui allaient faire de Bernadette Soubirou une sainte et de son village perdu au pied des Pyrénées, une ville qui est devenue aujourd'hui un des lieux de pèlerinage les plus célèbres du monde.
Lourdes, ce sont d'abord des foules. C'est la cohue, mais une cohue gentille, dans les rues à souvenirs. Des demoiselles d'âge, des matrones italiennes, de jeunes couples, des abbés en soutane, des échantillons de religieuses de toutes les communautés, des scouts. Tout ce monde descend les deux grandes rues, et l'on arrive aux grilles qui délimitent le domaine de la grotte. Là, d'abord un certain silence, une rumeur de prière, un piétinement, et puis, sur l'immense place devant la basilique, l'après-midi, l'un des « pourquoi » de Lourdes, les malades.
Seigneur, celui que tu aimes, les malades.
Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri.
Dominique Lormier, bonjour.
Bonjour.
C'était un reportage de François Foucart en 1973, il y a donc 35 ans, à Lourdes, qui accueille encore aujourd'hui 6 millions de pèlerins par an, et peut-être plus nombreux sont-ils aujourd'hui, puisqu'on attend 60 000 personnes pour le 150e anniversaire de la première apparition de la Vierge. Un anniversaire à l'occasion duquel vous avez écrit un livre, Lourdes, la miraculeuse, et un livre dans lequel vous rappelez que, contrairement à ce que l'on croit souvent, la ville, ou plutôt le village, à l'époque, existait déjà bien avant les apparitions.
Ben oui, puisqu'il y a eu la construction d'un château fort au Moyen-Âge, qui existait d'ailleurs sous l'Antiquité sous la forme d'un camp romain. On a également, d'une manière certaine, l'assurance qu'il y a eu des hommes préhistoriques à cette époque-là. Et ensuite, il y a eu donc le Moyen-Âge avec la construction de ce château fort qui a connu maintes péripéties du fait des guerres qui ont sévi dans la région.
Alors c'est une ville aujourd'hui, hein, c'est plus un village, il y avait 4000 habitants à l'époque de Bernadette Soubirou, il y en a aujourd'hui beaucoup plus, et surtout il y a tous ces visiteurs qui font la fortune de Lourdes, qui était une ville extrêmement pauvre avant les apparitions.
Oui, c'est une ville qui symbolise vraiment la pauvreté à l'époque du Second Empire où sévit la richesse avec la révolution industrielle. Lourdes est vraiment un symbole, je dirais, de la pauvreté, c'est-à-dire de gens qui subissent cette révolution sans en avoir les avantages matériels. Donc c'est un symbole, je dirais, religieux également.
Alors un village qui vit essentiellement des activités agricoles qui se trouvent autour et qui est pauvre, d'ailleurs c'est le cas de la famille de Bernadette Soubirou, son père était un meunier qui avait fait faillite.
D'ailleurs le nom de Soubirou en béarnais veut dire secourable, hein, donc c'est déjà un nom un petit peu prédestiné. Effectivement c'est une famille qui vit vraiment dans la pauvreté, le père sera même arrêté à un moment donné suite à des accusations mensongères l'accusant de vol, ce qui était totalement faux. Puis Bernadette Soubirou, elle va connaître véritablement, je dirais, une enfance qui est baignée dans la pauvreté, c'est-à-dire elle n'a pas de scolarité à l'époque, elle est très peu catéchisée. Là, d'ailleurs, un des abbés qui la suit dira que sa connaissance dans le domaine religieux était totalement, je dirais, extrêmement limitée.
Donc elle parle pas le français, elle parle le patois.
Voilà, elle parle le patois. C'est une enfant, par contre, extrêmement réservée et qui est néanmoins, je dirais, déjà dans une union mystique avec Dieu, mais par le silence, c'est-à-dire par la pratique de l'oraison silencieuse, celle qui est pratiquée d'ailleurs par les grands mystiques. Mais elle est déjà, je dirais, baignée. C'est-à-dire, ça a été remarqué par un de ses cousins qui vit avec elle et qui a remarqué qu'elle était directement, on pourrait-on dire, dans une théologie déjà apophatique, c'est-à-dire au-delà des mots, d'union mystique avec Dieu, avec une totale indigence du langage, mais déjà une union par la prière silencieuse.
Très fragile également physiquement, parce que il faut le rappeler aussi, la misère est telle chez les Soubirous qu'on vit dans le cachot de l'ancienne prison de Louvain.
Voilà, absolument. Y a des enfants en sont réduits parfois à manger les cierges dans les églises. La viande, elle n'apparaît qu'une fois par an. Si bien que les parents de Bernette l'amènent chez une tante qui habite dans la région où là il y a des repas un peu plus consistants, mais néanmoins il y a quand même cette pauvreté, d'autant plus que Bernadette est déjà asthmatique, elle souffre d'importantes crises d'asthme, et donc c'est une enfant extrêmement réservée et fragile.
Et puis alors d'autant plus fragile aussi qu'elle va, comme les enfants de sa condition, très pauvre, elle va chercher du bois, et c'est justement à l'extérieur de la maison pour chauffer le poêle, et puis justement c'est ce jour-là, c'était le 11 février 1858, il y a 150 ans, elle part chercher du bois, et c'est là que se produit la première apparition Dominique Lormier.
Absolument, alors elle est la seule à la voir. Si bien entendu, ça va intriguer énormément de personnes. Elle rentre tout de suite dans un état d'extase. Au moment où elle va chercher du bois, elle tente de vouloir traverser le gap, puis elle hésite. Elle se tourne, elle voit une infructuosité où se trouve la grotte de Massabielle. Elle s'y dirige et à ce moment-là, elle est littéralement saisie par une apparition lumineuse où elle est véritablement dans un état d'extase, d'union mystique avec cette dame mystérieuse.
Alors elle en parle à sa sœur, à son amie. Elles étaient trois, mais enfin il y a qu'elle qui a vu effectivement cette apparition. Et puis aussitôt la nouvelle commence à se répandre, elle retourne à la grotte, elle voit une deuxième fois cette apparition, et puis le 18 février, troisième apparition, elle est accompagnée cette fois-ci de deux femmes de Lourdes, Madame Millet et sa couturière Antoinette Perret.
Tu vois quelque chose ?
Pas encore.
Ça y est, je la vois. Elle a un chapelet sur son bras droit. Elle me regarde. Elle me sourit.
Demande-lui si elle veut que nous restions ici.
Ça vous dérange si ces gens restent ici? Non. Elle dit que vous pouvez rester.
Qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Elle m'a demandé si je pouvais lui faire la grâce de venir ici pendant 15 jours.
C'est la troisième apparition donc à Bernadette Soubirous le 18 février 1858. Et alors là, vous le notez, chacune de ces apparitions, et il y en a eu 18 au total, à chaque fois, et c'est ce qui a rendu ces apparitions suspectes, en tout cas pour ceux qui en doutaient, c'est qu'elle est la seule à voir cette apparition et à l'entendre.
Absolument, elle est la seule. Les personnes qui sont autour d'elle, qui vont être de plus en plus nombreuses, puisqu'on va arriver jusqu'à plusieurs milliers de personnes qui vont assister justement aux côtés de Bernadette aux apparitions, mais sans les voir. Elle est effectivement la seule à les voir. Néanmoins, je dirais que ce n'est pas un cas, je dirais, unique dans l'histoire de l'Église. Hein. Il y a eu saint François d'Assise qui a bien vu lui-même seul un séraphin, c'est-à-dire un ange céleste, alors qu'il était en extase. Il y a eu de nombreux mystiques et de religieux qui ont vu, alors qu'ils étaient en communauté des apparitions de soit de saints ou de la Vierge, et ils étaient les seuls à les voir.
Mais justement, qu'est-ce qui fait que on se contente de la voir ces apparitions, qu'est-ce qui fait qu'on puisse y croire justement dans la mesure où elle est seule à les voir?
Ben là, nous allons le voir dans le déroulement justement de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, elle va être amenée à donner un signe théologique, oui, absolument probant, qui va totalement désarçonner l'abbé Peyramale, mmh, lorsqu'il sera amené à l'interroger, puisqu'elle va lui parler, oui, de justement...
Mais on en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas surtout le fait que les premiers miracles se produisent?
Absolument.
À ce moment-là,
c'est le 1er mars avec Catherine Latapie, dont la main qui était totalement paralysée, guérie. Et elle ne va pas être la seule à ce moment-là, puisqu'il y a...
Alors, il faut rappeler... c'est important, les miracles viennent d'une source qu'elle a découverte elle-même.
Hein, absolument, que Bernadette a découvert elle-même au moment d'une apparition. À un moment donné, la Vierge Marie lui demande justement de creuser un peu le sol, et d'un seul coup, lorsqu'elle se met à creuser, il y a une source qui apparaît, une source d'eau miraculeuse. Et ensuite, il y aura une personne, donc Catherine Latapie, qui est amenée à s'y rendre, puisqu'elle a la main totalement paralysée, elle guérit subitement. Il y aura également ensuite un enfant, Louis Bourriette, également Justin Bouor, Blaisette Cazenave, qui vont être parmi les toutes premières miraculées, alors que Bernadette Soubirous est encore présente à Lourdes.
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont quand même très sceptiques. Il y a un commissaire qui l'interroge longuement, le commissaire Jacomet. Il y a aussi le curé du village qui lui-même est sceptique. On comprend un petit peu, l'Église craint de passer pour ridicule si elle accrédite tout de suite la thèse du miracle. C'est
l'abbé Peyramale qui va l'interroger avec une certaine rudesse, et à un moment donné il essaye de vraiment la pousser dans ses retranchements, et il est totalement désarçonné, je dirais, par ce visage de sainteté qui rayonne à travers Bernadette Soubirous. Et surtout, à un moment donné, Bernadette Soubirous est amenée à lui parler de l'Immaculée Conception, qui est un terme qui n'est connu que par des théologiens pointus à cette époque-là.
Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Vous m'avez dit de lui demander quel était son nom. Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception.
Tu sais ce que ça signifie ?
Non.
Tu es bien sûr que ce sont les paroles de la dame ?
Oui.
Seul le théologien l'appelle comme ça. Ça, tu ne le savais pas, Bernadette ?
Non.
Elle t'a dit, je suis l'Immaculée Conception, tu ne peux pas l'avoir inventée. Adiutorium nostrum, in nomine Domine. Que Dieu nous vienne en aide. Va maintenant. Je dois réfléchir.
Alors, l'Immaculée Conception, c'est le nom que les catholiques aujourd'hui donnent à la Vierge, mais on l'oublie un peu, c'est un dogme en fait, et un dogme très récent. Au moment où elle en parle, il vient à peine d'être proclamé par le pape Pie IX.
Absolument, c'est un dogme du milieu du XIXe siècle, extrêmement pointu, qui met en avant le fait que la Vierge est née sans péché, c'est-à-dire sans péché originel. C'est-à-dire, il n'y a pas la moindre trace de péché en son esprit, et donc c'est quelqu'un de spontanément pur, et donc et qui est véritablement à même de pouvoir accomplir des miracles.
Mais alors justement, est-ce que ça tombe pas à pic au fond ? Ça aussi, ça peut rendre un peu sceptique, car ce dogme, il apparaît au moment où le pape ou l'Église essaye de développer le culte marial. Elle se trouve en face d'un rationalisme qui progresse, d'une déchristianisation de la société, puis on dit, ben tiens, on va développer en tout cas le culte de la Vierge Marie.
Ben, c'est surtout une époque où côtoie une extrême richesse, une extrême pauvreté, qui est l'époque du Second Empire, c'est la période de la Révolution industrielle, où il y a des grandes familles qui s'enrichissent, et tout cela souvent parfois au détriment, je dirais, des familles pauvres qui en sont réduites à travailler dans des conditions misérables. Donc on peut y voir justement un symbole, je dirais, totalement évangélique à travers cette apparition, et qui touche en plus une jeune fille qui est pauvre, extrêmement pauvre. Ouais. Donc il y a à la fois, je dirais, plusieurs signes qui peuvent attester véritablement que c'est un signe venu du ciel.
Parce que justement, son apparition, c'est l'Immaculée Conception, puisque c'est ce que lui a dit cette apparition, eh bien, lui demande, le 2 mars, demande à Bernadette de faire en sorte que on crée des processions autour de la grotte, qu'on y construise une chapelle. C'est d'ailleurs l'époque où, justement, on a construit beaucoup de cathédrales dédiées à la Vierge, Notre-Dame de la Garde à Marseille, Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame d'Afrique à Alger. Donc c'est vrai que ça vient à un moment propice.
Absolument, bien qu'il y ait déjà un culte marial qui existait déjà au Moyen-Âge, il y a eu de nombreuses apparitions mariales au Moyen-Âge. Ça s'est ensuite atténué un petit peu par la suite, et il y a eu un renouveau à partir du XVIIIe siècle, où il y a de nouveau de nombreuses apparitions mariales, et surtout au milieu du XIXe siècle, là où il y en aura beaucoup, parce qu'il y a eu déjà aussi une apparition mariale plusieurs fois dans les Pyrénées, notamment à Bétarame, où la Vierge serait également apparue. Donc je dirais que c'est des phénomènes qui sont, je dirais, réguliers dans l'histoire de l'Église chrétienne.
En tout cas, c'est des phénomènes qui suscitent des polémiques, ou en tout cas le scepticisme, parce qu'en raison des miracles, eh bien, des centaines de personnes, des milliers à un moment donné, vont assister. Ça a duré jusqu'au 16 juillet, les apparitions.
Voilà, absolument. Ça s'est prolongé durant plusieurs mois, jusqu'au 16 juillet. Et effectivement, nous avons des polémiques à la fois, parce qu'il y a à ce moment-là le triomphe du rationalisme, qui est bien entendu porté à critiquer ce genre d'apparition. Et il y a bien entendu toute une polémique autour de ça.
Messieurs, je vous ai réunis ici parce que ce qui se passe à Lourdes est inacceptable et dangereux.
Malheureusement, une légende s'est créée autour de Bernadette Soubirous et de cette source découverte à Massabielle, monsieur le préfet. Depuis quelque temps, on raconte au village qu'une jeune mère venue de Saint-Girons aurait immergé son enfant paralytique dans les eaux de la source et qu'il en serait sorti miraculeusement guéri.
On m'a raconté une autre histoire. Il paraît qu'un jeune paysan...
Oh, messieurs, nous nous perdons en vaines paroles. Les légendes ne m'intéressent pas. Vous devez faire cesser ce scandale.
Si nous interdisons l'accès à la grotte, nous provoquerons une émeute.
Mais qu'importe, Jacomet. Nous devons interrompre cette spirale d'ignorance et de superstition. C'est le prestige de la France et de notre empereur qui sont en jeu. Je veux que la grotte soit fermée au plus vite. Coûte que coûte.
Oh, Bernadette,
oh, mon enfant guéri,
ton cœur était léger,
on n'a pas parlé,
mais un murmure de bonne volonté.
Et c'était Tino Rossi, une chanson de Laurent Hesse et Henri Guétanet, Au Bernadette, qui a été chantée en 1958, c'est-à-dire pour le 100e anniversaire de l'apparition de Bernadette. Alors, elle apparaît, nous sommes, vous le rappelez, Dominique Cormier, nous sommes au Second Empire. Bon, le Napoléon III essaye plutôt de s'entendre avec les autorités religieuses. C'est l'époque où il essaye de racheter le fait qu'il a soutenu ou qu'il soutient l'unité italienne contre le pape. Mais il y a un scepticisme manifeste. Vraiment, la France est très profondément divisée sur ce cas, parce que toute la France est au courant quelques semaines après les apparitions.
Alors, je dirais que les personnes humbles sont tout à fait acquises aux apparitions mariales. Mais il y a une certaine élite bourgeoise qui baigne dans le scepticisme et souvent dans le rationalisme et qui est beaucoup plus, je dirais, attachée au bien matériel qu'au bien spirituel, qui est bien entendu portée à un certain scepticisme
On peut ne pas être attaché au bien matériel sans... On peut douter, on peut être athée.
Absolument. Hein. Il y a eu de toute façon toute une polémique là-dessus. Il y a eu notamment Émile Zola qui a écrit un livre sur Lourdes où là il émet quelques réserves, bien entendu.
Je le cite, hein, simplement, puisque vous en parlez. Émile Zola s'est rendu plus tard, en 1891, il prend le train, hein, comme beaucoup de malades, il est curieux de savoir ce qui se passe, et puis il écrit de ces trains, c'était les hôpitaux roulants des maladies désespérées, la ruée de la souffrance humaine vers l'espoir de la guérison, dans une bousculade de cohue, il roulait sans fin, charriant la misère du monde, en route pour la divine illusion.
Oui, alors ça c'est son opinion, mais notamment il y a quelques erreurs dans son livre, hein, parce que j'ai consulté les archives médicales, et il cite notamment un miracle où il dit finalement que ce miracle n'a pas eu lieu, alors qu'il a été reconnu par le bureau des constatations médicales, ce bureau des constatations médicales qui regroupe quand même une vingtaine de médecins, dont un certain nombre d'ailleurs sont totalement athées ou ne sont pas catholiques, hein, il y a des protestants qui en font partie. Donc c'est fait avec un extrême sérieux, hein. L'Église a toujours été extrêmement prudente vis-à-vis de toute forme d'apparition. Elle a mené de longues enquêtes. Et avec également des gens qui ne partagent pas forcément d'ailleurs les opinions de l'Église.
Et il n'est pas le seul, non pas à critiquer nécessairement ou à douter des apparitions, mais de l'exploitation qui en est faite, parce que très vite, eh bien, on a construit une statue de Joseph Fabisch, oui, une basilique. Et qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs Bernadette? Je crois qu'elle a quitté Lourdes.
Alors Bernadette va rentrer dans les ordres et elle va décéder en odeur de sainteté à Nevers, dans un couvent de religieuses. et elle sera ensuite bien sûr canonisée au début du XXe siècle par l'Église catholique, hein, par le pape. Et il y a eu des phénomènes assez curieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a été mise sous terre, et 30 ans après, on a ouvert le cercueil, et on a découvert que le corps était intact, et même, je dirais, diffusait des odeurs d'encens.
Encore un miracle.
Voilà, absolument.
Alors, ces pèlerinages, il faut le rappeler aussi, ces pèlerinages prennent des proportions assez impressionnantes, parce que on a rouvert, elle a été fermée quelque temps, et puis la grotte a été rouverte sur ordre de Napoléon III, et puis ils sont favorisés évidemment par le train. C'est ça qui explique d'ailleurs.
Effectivement, le Second Empire a totalement favorisé, je dirais, l'exploitation ferroviaire. C'est un des aspects, je dirais, positifs du Second Empire, qui a totalement développé à l'instigation également du modèle britannique. Donc, effectivement, les Pyrénées étaient déjà bien équipées en modèle ferroviaire, du fait qu'il y avait énormément de stations thermales. Donc, c'était un lieu également où les stations thermales étaient à la mode. Elles l'avaient été à l'époque de l'Antiquité. Elles sont redevenues sous le Second Empire et durant la Belle Époque, où on allait souvent à Cauterets. Comme Cauterets n'est pas très loin de Lourdes, donc on faisait un arrêt à Lourdes et ensuite on se rendait à Cauterets pour soigner ses rhumatismes.
Alors une quantité, effectivement, de pèlerins qui viennent, attirés aussi peut-être par l'espoir de guérison, dont 67 ont été reconnues miraculeuses par l'Église. France Inter, Christophe Ondelat, le 10 janvier 1999.
Il ne s'agit pas de faire ici du prosélytisme en faveur de la Sainte Église catholique et apostolique, ni d'une quelconque foi chrétienne. Il s'agit seulement de dire ce qui est. Le 9 octobre 1987, un certain Jean-Pierre Belli, alors âgé de 51 ans, se rend en pèlerinage à Lourdes. Il souffre d'une sclérose en plaques, à un état sévère et avancé, une maladie en principe incurable. Et pourtant, quelques jours plus tard, Jean-Pierre Belli est guéri, il peut marcher, il n'a plus besoin de fauteuil. Et Jean-Pierre Belli raconte, il raconte comment une nuit, il s'est levé et il a marché.
Ce n'est que dans la nuit que j'étais réveillé par une main que j'ai sentie qui s'est posée sur ma hanche. Alors ça m'a réveillé instantanément et j'ai entendu 3 heures qui sonnaient au clocher de la basilique et j'en étais là à essayer de savoir qui m'avait réveillé quand il y a eu une idée qui m'a traversé l'esprit comme si quelqu'un me disait « Allez, lève-toi, marche !» Alors je suis descendu de mon lit et j'ai commencé à faire mes premiers pas.
Et c'était le 66e des 67 miracles.
Hein, alors c'était d'ailleurs un Français originaire de Charente-Maritime, et qui est décédé d'ailleurs depuis peu, mais la dernière est une Italienne, la 67e, c'est Anna Santaniello, dont le miracle a été reconnu le 21 septembre 2005. Très longtemps après, parce que le miracle avait eu lieu le 19 août 1952. Ouais. Hein. Elle souffrait de multiples maux extrêmement graves, et elle a guéri subitement également à Lourdes. Et il y avait eu également une jeune Italienne qui avait guéri avant Lucien Belli, qui souffrait également d'une grave maladie. On retrouve énormément, je dirais, de personnes qui ont guéri à Lourdes d'une manière miraculeuse, de personnes qui avaient des problèmes pulmonaires ou cardiaque, également des problèmes également au niveau du ventre, hein, des maladies du ventre diverses. Ce sont souvent sur des parties, je dirais, moues de l'être humain et rarement des parties osseuses, bien qu'il y ait eu également le cas aussi d'un Belge qui avait une double fracture, Monsieur Ruder, qui avait une double fracture de la jambe et qui a guéri subitement également à Lourdes au 19e siècle.
Quand vous parlez, Dominique Cormier, de guérison miraculeuse, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme miraculeuses par l'Église.
Elles sont également reconnues inexplicables, je dirais, rationnellement et scientifiquement, ouais, par le corps médical. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une enquête extrêmement, d'abord, qui est menée par le bureau des constatations médicales, qui regroupe une vingtaine de médecins, mais il y a depuis un certain nombre d'années également un institut médical qui regroupe un nombre beaucoup plus important de médecins qui existe depuis 1947 et qui, lui, regroupe une cinquantaine de médecins du monde entier et qui sont amenés également à se pencher sur le cas également de cette guérison.
Alors, ils parlent, eux, parce que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas croyants.
Absolument, c'est ce qu'il y a justement d'intéressant. Hein,
mais ils parlent vous dites qu'il y a eu 7000 guérisons,
voilà,
2000 qualifiées, d'extraordinaire. Ça, c'est le bureau des constatations médicales qui dit qu'elles sont extraordinaires. Et 67, seulement, si je puis dire.
Et il y aurait certainement beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des personnes qui ont gardé le silence. Moi, je connais personnellement une personne sur Bordeaux qui a guéri, qui était aveugle et qui a retrouvé la vue sur le chemin de retour en rentrant vers Bordeaux après être passé par Lourdes. Et sa famille avait tenu à garder le silence parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'exploitation médiatique.
Oui, mais Dominique Cormier, permettez-moi d'être sceptique aussi.
De cette guérison. Oui.
Bon, vous y croyez, c'est une chose entendue, mais bon, on peut considérer qu'il s'agit d'un choc émotionnel ou psychosomatique. D'ailleurs, on peut dire de ça aussi, de ce qu'a vu Bernadette Soubirous. D'autre part, des guérisons inexpliquées, il y en a aussi dans les hôpitaux, et on ne parle pas de miracles.
Il y en a également dans les autres religions également, il faut le dire. Et effectivement, il y a des guérisons inexpliquées. Néanmoins, lorsqu'on voit une personne qui a une double fracture de la jambe et qui se rend à Lourdes, et d'un seul coup, les os sont ressoudés en quelques secondes.
Mais ça, c'est trop long. On les voit en photo dans votre
On peut effectivement se poser des questions à ce niveau-là. Même des personnes qui sont atteintes d'un cancer en phase terminale. Et d'ailleurs, les médecins ont dit que cette personne n'avait que plus que quelques jours à vivre. Elle se rend à Lourdes et elle guérit subitement. Effectivement.
Mais ça peut être un choc. Ça existe, le double psychosomatique.
Absolument. Mais enfin, là, j'ai un ami médecin qui s'y est rendu.
Oui, peut-être pas pour une fracture.
Jean-Pierre Schneider, qui est franc-maçon et qui est bouddhiste. Donc, il n'est pas du tout dans la tradition chrétienne. Il avait été amené à consulter, justement, les archives du bureau des constatations médicales. Et il avait été totalement bouleversé.
Est-ce que le miracle est la raison pour laquelle on y tient, c'est pas parce que tout simplement ces apparitions ont fait la fortune d'une ville qui était extrêmement pauvre, Dominique Cormier?
Alors effectivement, les mauvaises langues auront tendance à dire ça. Effectivement, quand on voit l'extérieur de Lourdes en dehors du sanctuaire, ça fait penser un peu aux marchands du temple, parce qu'il y a effectivement toute une... Mais enfin, bon, ce sont des gens qui ont besoin d'espérance et d'espoir, et le fait de se rendre à Lourdes, quelquefois, peuvent leur redonner, je dirais, un certain goût à la vie. Donc je dirais, c'est l'aspect, je dirais, positif de Lourdes, bien qu'il aille au-delà, puisqu'il y a également surtout l'aspect religieux et mystique et que l'on retrouve également dans des autres lieux de culte, dans toutes les autres traditions spirituelles de l'humanité. Il faut savoir que le Dalai Lama qui s'est rendu à Lourdes a été très impressionné. Il est quand même prix Nobel, il faut quand même le rappeler, et il a quand même tenu à dire que c'était un haut lieu, je dirais, de la spiritualité dans le monde.
Oui, un des plus importants du christianisme après Rome, sans doute.
Absolument.
Un lieu de pèlerinage considérable. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que, Dominique Cormier, il y a eu d'autres apparitions de la Vierge. Par exemple, je ne sais plus à quelle époque la Vierge est apparue à Morzine. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de cette apparition et que Lourdes, Morzine, c'est pas Lourdes. Pourquoi est-ce que Lourdes a pris cette importance?
Alors, Lourdes a comme une particularité, c'est que la Vierge est apparue de nombreuses fois en peu de temps et qu'elle a délivré des messages extrêmement précis et qu'il y a eu à ce moment-là des guérisons miraculeuses au moment des apparitions mariales.
La Vierge, il faut le rappeler, quand Bernadette la voit, elle l'appelle cela, Aquero,
dans le patois,
et ce n'est que plus tard, au fond, elle ne savait pas que c'était la Vierge.
Absolument. Bon, elle en parlait avec sa famille, mais elle a véritablement la révélation lorsque la Vierge lui parle d'Immaculée Conception.
Merci Dominique Lormier. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre Lourdes, la miraculeuse, qui a été publié aux éditions Trajectoire. À lire également d'autres livres édités, on s'en doute, pour ce 150e anniversaire des apparitions. Bernadette Soubirous, Dan Bernet et Enquête sur les apparitions de la Vierge d'Yves Chiron, deux livres publiés aux éditions Perrin dans la collection Timpus, et puis également Apparition à Lourdes de Patrick Spalchiero aux presses du Châtelet. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Lourdes de Ludovico Gasparini. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin de la Gatinée et Eric Morin. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une bataille importante dans l'histoire de la France libre, la bataille de Biraquet.
D'un côté, un épargnant.
Bonjour à tous.
De l'autre côté, la GMF.
L'épargnant a de l'argent à placer.
Oui, enfin un petit peu.
Alors la GMF le fait fructifier pour lui.
Ah oui.
Pour la troisième année consécutive, elle lui offre un taux d'intérêt de 4,55% sur son épargne.
4,55%?
Pour l'épargnant, c'est une façon sûre de gagner de l'argent.
Ah, comme vous dites.
Et pour la GMF, c'est une façon sûre de faire plaisir à un client.
Ah bah là, je suis content.
Assurément gagnant avec la GMF.
4,55% taux net servi en 2007 sur les principaux contrats d'assurance vie en euros de la GMF hors prélèvements sociaux.
TGV a créé TGV Pro. Pourquoi?
Parce que le pro est toujours débordé. Sinon, ce ne serait pas un pro. Et le pire, quand on est débordé, c'est d'avoir une réunion à décaler. Mais Le pro s'en moque, car son billet TGV Pro est flexible. Et quand le pro arrive à la gare, il n'a pas à attendre son taxi, car un vrai pro sait déléguer les tâches. Alors c'est le taxi qui attend le pro. C'est ainsi que le pro arrive à l'heure en réunion, ce qui le distingue de l'amateur.
Service soumis à condition. TGV Pro, la nouvelle offre de TGV pensée pour les professionnels.
SNCF.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h. Les informations, Claire Servageon, bonjour Claire.
Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Un vol sur deux annulé et 2 heures de retard en moyenne pour les vols au départ et à l'arrivée d'Orly. La grève des aiguilleurs du ciel provoque, comme prévu, d'importantes perturbations dans les aéroports parisiens. À Roissy, on ne parle que de retard pour l'instant, mais le mouvement pourrait se durcir à partir de demain. Les contrôleurs aériens dénoncent à l'appel de la CGT leur regroupement à Roissy à partir de 2011. À Neuilly, le psychodrame continue ce matin. David Martinon, lâché par ses colistiers de l'UMP, a annoncé qu'il renonçait au municipal. Mais il reste pour l'instant porte-parole de l'Élysée. Nicolas Sarkozy a refusé sa démission. À Neuilly, une question désormais. Qui conduira la liste UMP aux prochaines municipales? Il n'est pas exclu que ce soit Jean Sarkozy, le fils cadet du chef de l'État. Pour François Hollande, la farce de...